L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 14h19, au cœur d'une chaude journée d'été 1954. Se trouver au bon endroit au bon moment, c'est ainsi que Raymond Albert Croc résume sa recette de la réussite. Dans quelques instants, cet Américain de 52 ans va faire une découverte qui changera le cours de sa vie. Fort de son audace et de sa persévérance, il va devenir un des hommes les plus influents de la planète et laissera une trace indélébile à travers le monde. 14h19, l'heure âge de mon histoire. Raymond Albert Croc. Ce nom ne vous dit certainement rien. Pourtant, cet homme est un visionnaire à l'origine d'une surprenante saga au cœur de l'Amérique des banlieues des années 1950 et 1960. Celle de l'automobile, des centres commerciaux et des classes moyennes fières de leur pays et de sa culture et adeptes de nouveaux modes de restauration. Qui ne connaît pas McDonald's, la chaîne de restauration rapide la plus célèbre au monde? Souvent critiqué pour la précarité de ses emplois, la qualité diététique de ses produits ou encore pour ses pratiques de l'optimisation fiscale, il n'en demeure pas moins que l'histoire de cette firme multinationale est une illustration parfaite de l'American Way of Life, si cher aux Américains. À l'origine de la success story, il y a les oubliés de l'histoire, les frères McDonald. Avant eux, leur père et son stand de hot dog. Et après eux, l'audacieux Ray Kroc, qui a senti la bonne odeur du burger et des dollars. Bref, pas mal de choses à raconter avant même la naissance du fameux clown rouge et jaune que les moins de 20 ans pourraient ne pas connaître. Mais commençons par le commencement. Un certain Patrick McDonald ouvre un stand de hot dog à Arcadia, en Californie. Son nom ? The Airdrom. 3 ans plus tard, les deux garçons de la fratrie, Richard et Maurice McDonald, reprennent l'affaire familiale. Ils la déménagent à San Bernardino, un petit peu plus à l'est de la Californie, pour voir plus grand. Et petite anecdote au passage, il n'y a pas grand-chose à faire ou à voir à San Bernardino. Mais la ville restera marquée par les grandes premières. Outre celle de McDonald's, c'est aussi la grande première des Rolling Stones en concert aux États-Unis. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos grillades. Richard et Maurice, alias Dick et Mac, rebaptisent l'enseigne en Restaurant McDonald's, tout en conservant le concept original, un drive-in dans la plus pure tradition américaine. Alors certes, on y sert des hot dogs, mais on propose également une liste à rallonge d'une vingtaine de plats de viande grillée au barbecue, rehaussée de quelques crudités et d'une sauce tomate. Une quinzaine de voituriers est embauchée pour servir les clients directement dans leur voiture. Le concept de restauration plaît et l'endroit devient un lieu particulièrement populaire pour les jeunes Américains. Notez que le lycée est situé juste à côté. Et le succès est au rendez-vous. Il est particulièrement profitable pour les propriétaires. Au bout de quelques années d'exploitation, les deux frères font le bilan. Et ils se rendent compte que la majorité du chiffre d'affaires provient exclusivement de la vente des hamburgers. Dick et Mac décident alors de repenser complètement leur système de vente et de restauration. Et ils vont réduire la carte à l'offre que 80% des consommateurs ont l'habitude de commander, à savoir hamburgers, soda, lait, café, frites et gâteaux. Aussi, ils vont fermer le restaurant pendant plusieurs mois pour prendre le temps de dessiner une cuisine sur mesure. Ils vont développer un dispositif innovant de service rapide. Speedy Service System, une ligne de préparation aérodynamique pour hamburgers qui devient la base de la restauration rapide moderne. Le concept est ingénieux et révolutionnaire. On accélère le processus de préparation pour que les burgers soient prêts en 2 minutes. On cuit, on assemble avec des gestes calibrés et rapides des hamburgers et des frites qui ne peuvent pas attendre plus de quelques minutes dans un présentoir chauffé. Pendant que 2 cuisiniers préparent sur le grill les steaks de bœuf dans un délai rigoureusement calculé, des préparateurs garnissent les pains burgers. L'assaisonnement des hamburgers est minutieusement précis et réduit à sa plus simple expression. Une portion précise de ketchup et de moutarde, une pincée d'oignon et deux tranches de cornichons. Enfin, on les vend à un guichet. Les clients les emportent et les dégustent où ils veulent. Plus de serveuses sur patins à roulettes qui portaient les plateaux à accrocher aux portières des voitures. Plus d'assiettes, plus de discussions entre le personnel et les clients. Bref, on vend des hamburgers frites et des milkshakes, un point c'est tout. Et ça marche. Le fast-food est né. Le menu simplifié et la préparation des aliments selon les principes de la chaîne de montage permettent de vendre des hamburgers pour 15 centimes, soit environ la moitié de moins que dans un restaurant assis. Cela permet de délivrer des commandes en 30 secondes au lieu de 30 minutes auparavant. La rentabilité est alors impressionnante. Conscients de la mine d'or appétissante qu'ils ont entre les mains, les frères McDonald's décident de proposer leur concept de fabrique à burgers pour ouvrir d'autres restaurants. Mais jamais trop loin de la Californie, pour pouvoir garder un œil sur tout le processus de fabrication et être sûr de servir des produits de qualité à leurs clients. Ouvriront trois nouveaux restaurants en Californie du Sud, un à Sacramento et un à Phoenix, qui rencontrent plus ou moins de succès. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Richard et Maurice McDonald font une rencontre qui va faire entrer leur petite entreprise dans une autre dimension. Laissez-moi à présent vous présenter l'ambitieux Ray Kroc. Je vais vous raconter comment ce type ordinaire est devenu l'homme d'affaires qui transforma la petite marque McDonald's en une chaîne de restauration rapide de dimension internationale. Le destin, le hasard, la bonne étoile, chacun y verra ce qu'il veut. Raymond Albert Kroc, dit Ray Kroc, est né le 5 octobre 1902 à Oak Park, banlieue ouest de Chicago, dans l'Illinois, d'un père agent immobilier et d'une mère femme au foyer. Peu doué pour les études, il quitte définitivement l'école sans diplôme en 1917. Après avoir exercé de nombreux métiers tels que pianiste de jazz, employé d'une station de radio, il devient vendeur de gobelets pour la société Lily Tulip Cup Corporation. Il y apprend les fondamentaux de la vente. Il va rester dans cette boîte pendant 15 ans et gravir tous les échelons jusqu'à devenir chef des ventes pour tout le Middle West. En 1937, Kroc fait une rencontre décisive qui va littéralement changer le cours de sa vie. En tournée, sa route croise celle d'un inventeur génial qui vient de fabriquer une machine baptisée Multimixer. Ce robot permet de mixer jusqu'à 5 milkshakes en même temps. Une prouesse technologique pour l'époque. Ray se fie alors à son instinct. Il trouve la machine tellement révolutionnaire qu'il quitte son emploi chez Lily Tulip Cup Corporation, achète les droits d'exploitation du Multimixer pour tous les États-Unis et crée une société de distribution. Et ça marche plutôt pas mal. Ray distribue modestement, mais avec succès, le Multimixer pendant plus de 15 ans. Et c'est là que son destin bascule. En 1954, Ray est en prospection commerciale. Cet été, il fait chaud et il profite d'une petite pause entre deux rendez-vous pour contacter sa secrétaire depuis une cabine téléphonique. Cette dernière lui annonce la réception d'une nouvelle commande à honorer au plus vite. Un établissement achète d'un coup 6 de ses machines. Il s'agit d'un restaurant de hamburger situé à San Bernardino, en Californie. Alors que les ventes de ses multimixeurs sont en baisse, Ray est surpris par l'ampleur de la commande, inhabituelle à l'époque. Il décide de se rendre sur place, au bout de la route 66, à San Bernardino pour éclaircir la situation. Ce qu'il découvre là-bas le fascine littéralement. Beaucoup de monde ce jour-là devant la petite échoppe. Il y a là des hommes d'affaires, des familles avec des enfants, des jeunes. La file d'attente avance vite et c'est au tour de Ray de passer commande. Alors, écoutez, je vais prendre un hamburger, une portion de frites et un soda, s'il vous plaît. Et puis à sa grande surprise, eh bien, il est servi immédiatement. Où sont les couverts ? Demande Kroc, perplexe au guichet. Il n'y en a pas, vous retirez votre burger du sachet en papier et vous le mangez comme ça, et ensuite vous jetez l'emballage, lui répond le vendeur. Ah bon ? Et je le mange où ? Insiste Kroc, stupéfait. Où vous voulez ? Dans votre voiture, dans le parc, chez vous ? Où vous voulez ? Lui rétorque le jeune employé. Ray s'assoit finalement sur un banc à proximité et savoure son burger. Il est aux anges, totalement conquis par cette nouvelle expérience culinaire. Et il veut en savoir plus et demande alors à rencontrer les propriétaires pour se présenter. Les deux frères associés, flattés des compliments, lui font fièrement visiter leur établissement avec sa cuisine en inox brillant, à la propreté irréprochable et aux règles d'hygiène très strictes. Ray Kroc observe avec attention. Il est émerveillé par l'inventivité de l'organisation. C'est un véritable ballet qui se déroule sous ses yeux. Chaque geste, chaque déplacement a été chorégraphié à la seconde près. Il est totalement bluffé par le système révolutionnaire de fabrication à la chaîne et la rentabilité du dispositif mis en place. Bombougre, Dick et Mac, les patrons de ce petit miracle industriel, racontent leur histoire et révèlent à leurs bien curieux fournisseurs de mixeurs les secrets de leur organisation de système rapide. Comment ils ont pensé et dessiné chaque poste de travail? Comment ils ont réfléchi chaque détail pour obtenir un plan parfait et finaliser ce modèle de cuisine ultra optimisé basé sur le modèle de ce qu'a fait Henry Ford dans l'automobile? Et ils vont même jusqu'à lui révéler, photo à l'appui, les plans d'un restaurant du futur bâti autour de deux arches dorées. Des visionnaires géniaux donc, mais aux ambitions limitées et pour qui l'appât du gain n'est visiblement pas la volonté première. C'est ainsi qu'apparaissent les frères McDonald aux yeux de Ray Kroc lors de cette première rencontre. La nuit qui suit est courte. Ray Kroc a du mal à dormir dans sa chambre d'hôtel. Il repense à ce qu'il a vu le jour même. La brigade en uniforme blanc qui s'active en rythme, en cuisine, les deux frangins un peu joufflus à la manœuvre. Et puis cette enseigne au nom de McDonald's, à la consonance qui lui semble si glorieuse. Il songe à toutes ces mines réjouies, tous ces sourires d'hommes, de femmes, d'enfants américains, heureux d'être là pour avaler des burgers à 15 centimes. Les images tournent en boucle dans sa tête. Ray se tourne et se retourne, il ne pense qu'à ça. Lui, le vendeur de milkshake qui ne bénéficie pas vraiment du boom ambiant ni de la forme éblouissante de l'Amérique du début des années 50. Lui, qui est devenu la risée de son club de golf de banlieue et le désespoir de sa femme. Il sent qu'il tient là une opportunité unique de faire quelque chose de grand, de très grand. C'est donc remonté à bloc au petit matin, avant même l'arrivée des propriétaires, qu'il se présente à nouveau devant l'établissement, sûr de lui et de ses intentions. Ray Kroc, alors âgé de 52 ans, n'a d'autre volonté que de convaincre Dick et Mac de faire affaire avec lui en proposant d'étendre la franchise en dehors de la Californie. Les deux frères sont réticents. C'est trop difficile de surveiller le travail à distance et de faire respecter les critères de qualité des produits servis par les franchisés. Alors, ils ont déjà essayé, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Pour eux, mieux vaut avoir un seul bon restaurant que 50 restaurants médiocres. Mais Kroc insiste. Kroc ne lâche pas l'affaire. Enfin, soyez tranquille, leur dit-il. Et laissez-moi faire, je m'occupe de tout, du déploiement des nouvelles franchises et du contrôle de qualité. Le duo de restaurateurs finit par accepter devant l'acharnement et l'argumentaire du commercial. Ray devient alors leur agent exclusif, chargé de développer leur franchise sur le territoire américain. Dick et Mac McDonald ne le savent pas encore. Mais ils viennent de faire entrer le loup dans la bergerie.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous emmène aux États-Unis en pleine époque du drive-in et des serveuses en uniforme. Au moment où, à contre-courant, les deux frères McDonald's ont lancé une vente au comptoir accompagnée de quelques révolutions, une carte réduite à quelques produits, frites, hamburgers et soda, la fin de la vaisselle et une commande prête en 30 secondes grâce à un système de confection ultra rapide. Ray Kroc, un commercial aux dents longues et doté d'un flair certain, a compris immédiatement tout l'intérêt du concept. Avec un minimum d'organisation, il pense, à juste titre, que la chaîne pourrait prendre une envergure nationale. We'll be right back. enthousiaste et farouchement opportuniste. L'homme d'affaires va se saisir de cette occasion pour prendre son destin en main et changer de vie. Ray vient d'obtenir sous contrat l'autorisation pour développer au nom des frères McDonald's leur modèle de restaurant unique en son genre. C'est le premier jour du reste de sa vie. Il ne le sait pas encore, mais Raymond Albert Kroc va devenir milliardaire. Ray Kroc a le courage d'y croire. En 1955, il ouvre à son compte un premier restaurant McDonald's de l'autre côté des États-Unis, dans sa région natale, à Des Plaines, dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois. Il reprend au détail près toutes les recettes qui ont fait le secret de la formule. Propreté irréprochable, service rapide, prix modique. Il y ajoute très vite sa propre touche. Une standardisation encore plus poussée des opérations qui l'amène notamment, afin de réduire les coûts, à calibrer au millimètre près la taille des morceaux de viande, des tranches de pain et même des frites. Il développe aussi les fameuses arches dorées, imaginées par Dick McDonald, le créatif de la famille et sur lesquelles il avait flashé. Pour Ray Kroc, c'est la révélation. Lui qui a sillonné toutes les petites villes de l'Amérique profonde, il a remarqué qu'elles sont toutes organisées autour de l'église et du tribunal. La croix et le drapeau. L'ambition de Ray, faire de McDonald's et de ses arches dorées la nouvelle église de l'Amérique, porteuse des valeurs familiales et ouverte 7 jours sur 7. Désireux de garantir une qualité strictement identique des produits dans chacun des nouveaux restaurants franchisés, Kroc travaille dur les premières années. Mais le contrat commercial qui le lie aux deux frères le contraint et ne lui permet pas d'évoluer comme il le souhaite. Il perd de l'argent personnellement, allant jusqu'à hypothéquer sa maison. Il est alors au bord de la faillite et sa femme, désespérée, ne croit plus en lui. Elle est lassée de tous ses plans foireux et de ses rêves de gloire sans avenir. Non, elle n'y croit plus. Alors qu'il est dans une impasse au niveau professionnel et que son couple bat de l'aile, eh bien la chance va sourire à nouveau à Ray Kroc. Le hasard lui fait croiser la route d'un jeune financier aguerri qui va l'aider à déployer tout son talent d'entrepreneur et à prendre une toute autre dimension. Ce dernier lui explique comment gagner de l'argent, acheter des parcelles de terrain pour ensuite louer ces mêmes terrains à l'ensemble des franchisés qui ont une clause dans leur contrat stipulant l'obligation de la location. Kroc se lance alors avec ce nouveau partenaire providentiel dans une dynamique de développement basée sur le business immobilier. Cet astucieux système de location des terrains permet d'obtenir rapidement davantage de capital pour l'expansion et pour financer d'autres acquisitions de terrains. La possession des terrains permet également à Kroc de contrôler plus facilement tous les franchisés. C'est simple. S'ils ne respectent pas les critères de qualité, le bail de location est résilié. Résultat des courses. Les banques et les franchisés mangent dans la main de l'insatiable entrepreneur. La société immobilière que Kroc a créée devient la McDonald's Corporation et étend son réseau à travers l'Amérique. En 1958, McDonald's vend déjà son millionième burger et l'année suivante, l'Empire ouvre son 100e restaurant à Fond du Lac, dans le Wisconsin. En seulement 5 ans, l'ambitieux Kroc réussit à développer les activités de l'entreprise avec l'ouverture de pas moins de 228 restaurants McDonald's aux États-Unis. Mais au fur et à mesure que les arches dorées se dressent au bord des routes américaines, les désaccords stratégiques s'accumulent entre les frères et l'entrepreneur. Ray Kroc s'est totalement approprié la marque McDonald's. Il poursuit son développement commercial sans aucun scrupule et sans prêter aucune attention aux objections des deux frères. Les frères McDonald's sont de bons samaritains et restent enfermés dans leur idée courte à l'horizon limité. Bon, eux, tout ce qu'ils souhaitent finalement, c'est conserver leur mode de vie simple de restaurateur en proposant aux consommateurs d'excellents produits, laisser une empreinte écologique la plus faible possible et bien traiter leurs employés. Ils sont définitivement à l'opposé de la vision de Ray Kroc pour qui l'ambition est l'essence même de la vie. Il a faim de gloire et de dollars et le succès le pousse à vouloir dépasser toutes les limites. Nous sommes en 1961. Le businessman a désormais l'argent nécessaire pour casser le contrat originel qui le lie aux deux frères et ils ne vont faire qu'une bouchée. Il leur fait un chèque de 2,7 millions de dollars pour acheter sa liberté. À la table des négociations, Croc réussit sans égard à obtenir la cession de tous les droits associés au nom McDonald's. Si le contrat autorise bien les deux frères à conserver leur commerce d'origine en Californie, ils perdent en contrepartie le droit d'y afficher leur propre nom de famille, McDonald's. Un comble! Ils sont contraints de renommer leur établissement qui devient « The Big M » et qui restera ouvert jusqu'à ce que Croc les concurrence directement en ouvrant sans aucune délicatesse son propre restaurant aux Arches Dorées juste à côté. À noter aussi que les 1% de royalties convenus hors contrat de vente par une simple poignée de main ne seront finalement jamais redistribués aux deux honnêtes restaurateurs par la nouvelle société. Ray Kroc, décidément un homme d'affaires impitoyable. Il représente la figure de l'entrepreneur sans scrupules, en tout et pour tout, avec une méthode de management inflexible et intransigeante. Il n'hésite pas une seconde à écraser les autres. Son ambition personnelle se fait au détriment de ses relations avec sa femme et sa famille. Et il demande d'ailleurs le divorce en 1961, la même année que la signature du contrat par lequel il élimine définitivement et cruellement les frangins McDonald's du business en marche. Ray Kroc place la réussite et le travail avant toute autre chose. Il est d'ailleurs célèbre pour ses slogans devenus mythiques comme « Aucun d'entre nous n'est aussi bon que tous ensemble » ou encore « Si deux gestionnaires d'une même entreprise ont les mêmes idées, l'un des deux est inutile ». Son instinct d'homme d'affaires intransigeant et sans remords ressurgit encore par cette phrase qu'il n'hésite pas à balancer à Dick et Mac. « Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé ». Le travail représente pour Ray Kroc l'essentiel de sa vie. Si vous avez du temps pour vous reposer, vous avez du temps pour nettoyer, dit-il. Ou bien, le travail est le steak du hamburger de la vie. Ou encore, si vous pensez que la formation coûte cher, pensez au prix de l'ignorance. Régnant maintenant maître sur la société McDonald's, dont il s'est autoproclamé fondateur, Ray a ses manies. Ainsi, il ne supporte pas que ses collaborateurs aient les cheveux longs, mâche du chewing-gum ou porte des chaussettes blanches. De même, il met un veto absolu à l'installation de jukebox qui, en attirant une clientèle d'adolescents, risque de faire fuir les familles, sa cible prioritaire. Maniaque à l'excès, il vérifie lui-même régulièrement la propreté de ses restaurants. Il laisse en revanche une grande liberté à ses franchisés. Ceux-ci viennent de tous les horizons professionnels, seuls comptant leur sens du contact humain. Conscient que la standardisation des opérations est la clé du succès, Ray Kroc crée dès 1961 une université du hamburger à Chicago. Un programme complet y est proposé, au menu des cours, les bases de la comptabilité, la gestion du personnel, le travail en équipe, la courtoisie due aux clients ainsi que les stratégies commerciales. Tous les franchisés doivent y suivre une formation à l'issue de laquelle ils reçoivent un diplôme en hamburgerologie. Si McDonald's l'emporte sur ses concurrents, c'est parce que Ray Kroc ne se limite pas à son marché domestique. Il est l'un des premiers à pressentir que le mode de vie américain va s'imposer à une grande partie de la planète. Ce qui a marché à Des Plaines, à Chicago ou à New York peut parfaitement être dupliqué dans le reste du monde. Le marketing et la standardisation feront le reste. La société entre en bourse en 1965. Et le premier McDonald's en pays étranger ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada, en 1967. Les années 70 sont celles de la mondialisation. Ouverture du premier McDonald's au Costa Rica en 1970, puis au Japon en 1971. La même année, les Pays-Bas sont les premiers à accueillir le Big Mac en Europe. Suivront l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Autriche. La France, quant à elle, verra son premier McDonald's ouvrir à Créteil en 1972. Cependant, la franchise sera retirée au propriétaire du restaurant pour non-respect des règles. Et il faudra attendre 1979 pour que les Françaises et les Français puissent goûter à nouveau au hamburger de la firme. Le premier restaurant belge ouvre, lui, en 1978, face à la Bourse de Bruxelles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à chaque nouvelle implantation, le succès est au rendez-vous. L'expansion des McDonald's ne semble pas avoir de limite. Jusqu'à ce que le 21e siècle pointe le bout de son nez.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de l'Empire McDonald's. Un développement foudroyant qui doit autant à l'évolution des goûts alimentaires et des habitudes de restauration qu'aux règles très strictes et aux recettes marketing instituées dès sa création par la chaîne. À l'origine de cette surprenante saga, il y a un homme, Ray Kroc. S'il n'a inventé ni l'industrie du fast-food, ni même la marque McDonald's, cet autodidacte est le premier à avoir véritablement tiré profit de la transformation des comportements alimentaires, elle-même provoquée par la diffusion de l'American Way of Life. Plusieurs raisons à ce succès. Donc, bien sûr, il y a le concept innovant de restauration rapide, dont nous avons longuement parlé et qui est sans aucun doute le déclencheur de cette histoire. Mais pas seulement. En un, la capacité d'adaptation du géant alimentaire joue un rôle important dans son développement à travers le monde. Certes, McDo vend des hamburgers, mais l'enseigne sait s'adapter et adapter ses menus en fonction de la tradition du pays. On trouve ainsi des burgers au riz au Japon, des hamburgers aux crevettes au Vietnam et des menus cachers en Israël. Au Québec, McDonald's propose même le célèbre plat de poutine. Au-delà de la dimension culturelle, la firme fait l'effort de ne pas contrarier les croyances religieuses de chaque pays d'adoption. Mis à part les produits halal, on ne trouvera absolument aucun burger incluant de la viande de bœuf en Inde, par exemple, car la vache y est considérée comme sacrée. Au Maroc, à chaque ramadan, McDonald's sert un menu spécial à base de soupe marocaine, lait et dattes. Et puis deux, comment parler de stratégie commerciale sans parler du logo de l'enseigne? Les experts en communication marketing vous diront que le logo McDonald's est largement considéré comme l'un des plus populaires et reste un modèle d'identification dans le monde. Le logo, comme on le connaît aujourd'hui, reprend les arches originelles, les fameuses arches dorées qui ont fait tourner la tête de Ray Kroc la première fois qu'il les a vues. Ces arches jaunes qui semblent soutenir chaque restaurant McDonald's. Ces arches qui, pour Ray Kroc, représentent la famille, la communauté, l'espace où les Américains viennent partager un repas. C'est pour lui un repère au même titre que les églises avec leurs croix et les tribunaux avec la bannière étoilée. Et puis, troisième point, on ne peut pas parler de McDonald's sans parler du fameux clown rouge et jaune. Dès 1962, l'un des points forts du marketing de Ray Kroc est de vendre des hamburgers McDonald's aux familles. Et surtout, de donner envie aux enfants. Mais savez-vous pourquoi l'enseigne a choisi un clown du nom de Ronald McDonald comme mascotte? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter en 1963. L'une des franchises de McDonald's, installée à Washington DC, États-Unis, commande pour sa publicité le spectacle du cirque Bozo, mettant en scène un clown au visage blanc et aux cheveux rouges hirsutes. À l'époque, chaque restaurant est en effet libre de produire sa propre publicité. Il n'y a pas encore de cahier des charges à respecter, comme ce sera le cas par la suite. L'enseigne de Washington est l'une des plus prisées du pays de l'oncle Sam et le personnage du cirque Bozo est très populaire chez les enfants. La franchise de restauration rapide veut ainsi créer le buzz à travers ce show. Finalement, le spectacle est annulé, mais au vu du potentiel identifié, l'acteur américain qui incarnait le rôle du clown est embauché avec son costume pour faire trois publicités télévisuelles à la gloire du fameux hamburger. La firme ne veut pas passer à côté d'une si belle opportunité promotionnelle. Et vous aurez sûrement deviné la suite. C'est tous les États-Unis qui sont alors exposés, aux heures de fort audimat, à cette publicité d'un clown invitant à manger des hamburgers et des frites. C'est le début d'une belle histoire d'amour entre le clown et les arches dorées de McDonald's. Mais comble de l'ironie, Le premier acteur sera rapidement évincé du rôle car jugé pas assez dynamique et officieusement trop en chair pour incarner ce super-héros du burger. Ce dernier vit très mal le divorce et porte plainte pour usurpation. McDonald's change alors radicalement le style du clown. Plus jovial, coupe de cheveux plus stylisée et costume modernisé. Ils sont au total 10 acteurs à se succéder dans ce rôle à la télévision. Ronald envahit le paysage culturel du pays et devient un emblème de l'American Way of Life, le mode de vie américain. Il est si populaire que des jeux publicitaires, des comics, des dessins animés et des jeux vidéo lui sont dédiés. Les Japonais en raffolent. Parents et enfants veulent le voir et pour cela, il faut aller chez McDonald's. Le tour est joué. Tiens, petite anecdote au passage. Quand le célèbre fast-food se lance à l'assaut du marché nippon en 1971, la marque au clown sait qu'elle doit faire quelques concessions pour séduire ses consommateurs. Ce n'est donc pas Ronald McDonald qui débarque ce jour-là au Japon, mais Donarudo Maku Donarudo. Donald McDonald. Une nouvelle initiative de la marque pour faciliter la prononciation en japonais et séduire toujours plus de clients. Et Donald n'est pas un nom inconnu au pays du soleil levant, puisque grâce à Donald Duck, c'est une appellation appréciée des Japonais, ce qui rend plus facile à prononcer et à retenir. Pendant de nombreuses années, le clown Ronald attire et fidélise plusieurs générations d'enfants qui reviennent une fois adultes consommer dans les restaurants McDonald's. Comme Géant Vert, Monsieur Propre ou encore le Bibendum de Michelin, Ronald devient une des mascottes les plus connues au monde. Il suffit de le voir pour savoir de quoi on parle. Sa notoriété est telle qu'il n'a pas besoin de porter le logo de la marque pour y être associé. Aux États-Unis, le personnage de Ronald est aussi populaire que le Père Noël. Figure du XXe siècle par excellence, Ronald McDonald est le symbole de la marque de fast-food et de sa force de contagion culturelle à travers le monde. L'avenir de Ronald McDonald semble tout tracé, mais sa vie de mascotte ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Et le passage au XXIe siècle lui a été fatal. Le problème croissant de l'obésité infantile inquiète dès le début des années 2000 aux États-Unis. Faire de la publicité pour manger des aliments gras et sucrés en mettant en avant un clown, c'est clairement orienter cette publicité en direction des enfants. Même si la direction du groupe McDonald's refuse cette idée, soutenant que le clown Ronald est un ambassadeur du bien et ne fait que créer du bonheur et du rire, son image est mise à rude épreuve. Une lettre ouverte publiée à l'initiative d'une organisation de médecins demande le retrait des cadeaux dans les menus enfants et la suppression ferme de la fameuse mascotte. Ronald devient la cible de groupes anticapitalistes et défenseurs de la vraie gastronomie. Et c'est ainsi qu'en juillet 2000, la statue en résine de Ronald est dérobée dans le restaurant de la ville de Saintes, en France. Le kidnapping est revendiqué par le mystérieux FROC, le Front de Résistance à l'Oppression Capitaliste. Le FROC, qui prétend ne jamais s'abaisser, exige ironiquement que le restaurant aux Arches Dorées propose des glaces au camembert et que les caissières soient habillées en habits traditionnels charentais. Les terroristes culinaires vont jusqu'à lui couper un doigt pour jouer à fond le jeu du kidnapping et appuyer leurs revendications. La statue sera retrouvée abandonnée dans un fossé quelque temps plus tard. L'affaire fait grand bruit et tout le monde rigole. Citons un autre kidnapping de la mascotte en Finlande par un groupuscule qui menace d'exécuter l'otage si ses revendications ne sont pas entendues. Et il annonce : « Nous sommes le Front de Libération Alimentaire et nous espérons que cette action extrême nous assurera un futur meilleur et plus sûr. » La nourriture que nous aimons est en train d'être détruite par indifférence et cupidité. Au-delà du côté potage de ces histoires, c'est le début de la fin pour le clown. De plus en plus montré du doigt sur le banc des accusés dans le procès fait à la malbouffe. Et puis, autre drame dans la vie du clown, Ronald est victime d'un mauvais gag. Son costume est détourné pour faire peur pendant les très populaires fêtes d'Halloween. Et une véritable psychose s'empare des Américains. Une épidémie de clowns menaçants sème la panique dans les rues. On fait état de nombreux signalements de clowns sinistres, certains armés de couteaux, dans des dizaines d'États. Et vous l'avez compris, dans ces conditions, Ronald va devoir se faire discret et la chaîne de restauration rapide est contrainte de réduire le nombre de ses apparitions publiques. Avec son costume jaune et ses grosses chaussures, il n'a pourtant rien de très effrayant, mais le géant américain craint que son personnage ne fasse désormais peur. Une nouvelle stratégie de communication porte le coup de grâce au clown qui ne correspond plus au positionnement et à l'image de marque d'un fast-food de plus haut de gamme. Devenu la cible des mouvements altermondialistes et des syndicats agricoles, McDonald's tente de se racheter en parlant davantage d'environnement et en proposant des salades et des fruits notamment. La mascotte enjouée et dynamique rouge et jaune qui a attiré et enthousiasmé des millions de consommateurs n'a plus sa place dans cette nouvelle époque. Le clown est mort, mais Ronald n'est pas complètement enterré. S'il a bel et bien disparu des restaurants McDo, on le retrouve encore en cherchant un peu. Il représente aujourd'hui l'image de la fondation Ronald McDonald qui construit des maisons partout dans le monde pour accueillir les parents d'enfants hospitalisés. La fondation construit, gère et anime des espaces dans et hors des murs de l'hôpital pour accueillir les familles comme à la maison et les accompagner à chaque étape de l'hospitalisation de leurs enfants. McDonald's, c'est une histoire emblématique de l'Amérique qui parle du capitalisme. On est toutes et tous liés de près ou de loin à McDonald's, quoi qu'on en pense, devenu adulte. C'est un lien propre à l'enfance. McDonald's incarne le changement le plus important de la culture populaire et du fast-food. Il ne s'agissait pas seulement de hamburgers. McDonald's en dit long sur l'état de l'Amérique de l'époque, sur ses mutations. Ray Kroc est l'homme qui est devenu milliardaire en rachetant en 1961, puis en développant le modèle de restaurant de hamburger McDonald's aux deux frères Richard et Maurice, faisant de ce nom un véritable empire. Et Ray Kroc est peut-être un exemple de persévérance qui nous rappelle qu'il faut savoir rêver. Réussir en écrasant les autres, me direz-vous. À chacun sa loyauté. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Samuel Lemaire.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.